sait-on ce qui se cache derrière cette petite phrase que nous prononçons de nombreuses fois dans une journée? Quelle heure est-il?
Au quatrième top, il sera exactement...
midi et des poussières. Midi et des poussières.
Un rendez-vous presque quotidien sur Radio Barthas.
Des invités, des reportages, des chroniques, de la musique. Une heure d'émission pour raconter ce qu'il se passe ici et un peu plus loin.
Midi et des poussières.
En réalité, pour être tout à fait précis, actuellement c'est le temps atomique, moins 10 secondes, plus une heure.
Et bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Barthas, nous sommes le mardi 17 février et c'est le nouvel an chinois qui commence. Donc bonne année, deux semaines de festivités pour célébrer l'entrée dans cette nouvelle année qui est sous le signe du cheval de feu. Alors le cheval de feu, comme chacun des 12 signes chinois combinés à l'un des 5 éléments, y revient tous les 60 ans. Et alors qu'il évoque force, flamboyance, vigueur et courage, eh bien il est en réalité bien moins fougueux que ça. Le cheval de feu est tristement célèbre car il est associé à une importante baisse de la natalité. Lors de la dernière année du cheval de feu, c'était donc en 1966, des démographes ont constaté une surprenante diminution des naissances en Chine et au Japon qui s'expliquerait par une croyance populaire qui associe l'année du cheval de feu à une malédiction astrologique. Et d'après cette malédiction, les filles nées sous le signe cheval de feu seraient destinées à, écoutez bien, détruire leur mari mentalement ou moralement, voire physiquement. Alors cette croyance n'est évidemment soutenue par aucune donnée scientifique, mais elle crée des problèmes sociaux et démographiques réels. Et l'analyse de la démographie chinoise depuis 1830 permet de constater que chaque année cheval de feu s'accompagne d'une baisse sensible des naissances des petites filles, les parents ayant trop peur de ne pas pouvoir leur trouver de mari. Voilà, voilà, il va donc falloir attendre encore un peu pour avoir le recul suffisant et pour savoir si cette malédiction, entre mille guillemets, malédiction, aura encore trouvé son public en 2026. En tout cas, ça donne un peu envie de renverser la table pour au contraire célébrer bien haut et bien fort toutes les femmes nées sous le signe du cheval de feu et même carrément, pourquoi pas, de renommer le délire. Bienvenue dans l'année de la jument de flamme.
Midi et des poussières.
Et salut Léo.
Salut Raphaël, bonne année.
Mais bonne année à toi. Est-ce que tu connais ton signe astrologique chinois, toi?
Absolument pas. J'ai dû le connaître à une époque par curiosité, mais c'est pas le genre de choses auquel je m'attache plus que ça.
On va quand même chercher après l'émission, je suis curieuse. Mais donc si t'es là aujourd'hui, et tu n'es pas à la technique, tu es invité, tu es assis en studio. Tu es là aujourd'hui car tu nous proposes, tu nous offres aux auditeurs, aux auditrices de Radio Barthas et à moi-même aussi un reportage que tu as tourné il y a quelques semaines. Alors on va pas en parler tout de suite, on va en parler après parce qu'il y a déjà beaucoup de choses à entendre dedans. Donc on l'écoute.
On peut l'écouter, je suis bœuf.
Tu es bœuf? Ah, tu es bœuf. Mais bœuf de quoi?
Bœuf, buffle. Ah, faut.
Parce que normalement, il y a un élément qui est associé. Par exemple, moi, je suis dragon de terre, tu vois.
Je propose aux auditeurs, aux auditrices et à toi-même de le savoir juste après mon reportage.
Mais voilà, c'est pas un reportage sur les bœufs, c'est un reportage sur les oiseaux. On n'en dit pas plus.
Le samedi 24 janvier, je me suis rendu à Bec de Jeu à Balsièges. C'était la journée internationale de comptage des oiseaux de jardin organisée par la Ligue de protection des oiseaux, que l'on appellera plus tard LPO. Sur place, j'y ai trouvé une quinzaine de bénévoles venus se former ou en apprendre un peu plus sur pourquoi et comment compter les oiseaux de jardin. La matinée commence par des explications des organisateurs.
Du coup, c'est un comptage qui a lieu deux fois par an, officiellement. Et donc, comment on s'y prend? L'idée, c'est que le comptage dure une heure. L'idéal, c'est d'avoir dans son jardin une petite mangeoire ou en tout cas un endroit où on sait que les oiseaux viennent régulièrement. Si pendant mon heure, à un moment donné, j'en ai vu trois ensemble, je noterai trois maisons charbonnières. On note le maximum qu'on a vu en même temps. Aujourd'hui, pas de martinet, a priori.
Et puis, c'est parti. On commence nos premiers pas dans l'herbe sous la pluie battante qui ne manquera pas de devenir de la neige dans les premières minutes de l'expédition. Pas besoin de marcher très longtemps pour entendre nos premiers cris d'oiseaux.
Et donc du coup, nous, on envoie des grands corbeaux quand même.
très régulièrement. D'accord. Ici, il y en a beaucoup.
Ouais. Oh, non, mais c'est vrai que quand on fait le
chant,
c'est bizarre.
Et sinon, le chant est très efficace.
Alors, vas-y.
Alors, le chant de la corneille, c'est vraiment... C'est pas un chant, c'est un cri. Ouais, voilà. Non, ça, c'est plutôt le grand corbeau.
D'accord.
Et le grand corbeau, ça fait...
Ouais.
Alors, ça, c'est son truc caractéristique, mais je crois qu'il y a comme 20 ou 30 sons différents. Ouais. Enfin, le grand corbeau, il a vraiment des sonorités assez incroyables. Par exemple, je crois que... Enfin, en tout cas, moi, je l'avais entendu. Quand je l'écoutais, j'avais l'impression d'entendre une sonnerie de téléphone.
Ah oui.
Je pense pas qu'il refaisait vraiment une sonnerie de téléphone, mais un truc. Je me suis dit, il y a quelqu'un qui a un téléphone qui sonne, et c'est les corbeaux au-dessus de moi. Quoi.
Entremêlée d'explications et de chants d'oiseaux, la balade continue dans le parc de Bec de Jeu.
Là, les merles, avec un temps comme ça, ils se régalent. Il y a du ver de terre, ils peuvent. D'ailleurs, ils commencent à chanter. Et on a déjà eu des nichées en février de merles. C'est doux, il y a du ver de terre. Donc le froid, ils s'en fichent.
Qui soulève la terre,
c'est une question de ressources alimentaires.
Soudain, on entend plein de petits battements d'ailes, des petits cris stridents. Une masse sombre se déplace au-dessus de nous. On lève la tête et hop, une nuée d'oiseaux. Et c'est parti pour le loto du comptage.
Oh, regardez, là, tous les tarins qui arrivent. Ouais. Les tarins. Regardez, aux jumelles, ils sont tous jaunes.
Il y en a une bonne. Alors, combien vous dites?
40, je dirais.
Je dirais au moins 60.
40.
Entre 60 et...
Combien 40. Tu dis, Jules?
Tu dis mieux.
57.
Pas des bonnes jumelles.
Bah, c'est là, tu t'amuses, tu fais des photos, puis tu comptes, puis tu verras que tu es toujours largement en dessous.
Je sais qu'on est toujours en dessous, mais...
Il se déplace toujours en groupe.
Toujours en groupe. Et alors, quand vous mettez un coup de jumelle, vous voyez, alors, il y a des individus qui sont plus ou moins jeunes, c'est les mâles et les femelles, mais il y en a forcément qui sont jeunes dans le lot. Ça, c'est les mâles. Le tarin des ânes, il est vraiment jaune, là, bien sur le visage et tout. La tête est noire, enfin, le haut de la tête est noir. Et quand ils sont en vol, comme ça, les femelles, par contre, sont beaucoup plus ternes. Donc, on voit vraiment des différences très ternes et très flashy, quoi. Là, ils sont sur la ripisive, là, ils se nourrissent des fruits, hein, des zones.
Alors c'est une espèce qui hiverne très rarement en Lozère, et cette année on en a.
On en a pas mal, hein.
Depuis 4-5 ans, il y en a. Ça dépend, en fait, ils sont beaucoup dans les zones, comme leur nom l'indique, et ça dépend de la ressource alimentaire.
La matinée est passée assez vite, et juste avant mon départ, j'ai pu m'entretenir avec Héloïse Pantel, animatrice nature pour la LPO Lozère, qui a pu nous recontextualiser dans un premier temps ce qu'est la Ligue de protection des oiseaux.
Salut, donc moi c'est Héloïse, et donc la LPO c'est une association de protection de l'environnement qui s'est créée il y a déjà plus de 100 ans, au début des années 1900, pour venir en aide à la population de macareux-moines, qui était décimé par la chasse de loisirs, on va dire, sur les côtes bretonnes et normandes. Et donc, il y a quelques personnes qui se sont mobilisées pour aller protéger cette espèce d'oiseau. Et au fur et à mesure, l'association a grandi. Et aujourd'hui, on est une association de protection de l'environnement dans sa globalité. Pas que des oiseaux, mais des insectes, des mammifères, des plantes, voilà, un petit peu tout.
C'est une question toute bête, mais pourtant assez importante, c'est pourquoi on compte les oiseaux de jardin?
Ça, c'est une grande question. Aujourd'hui, on est sur le comptage des oiseaux des jardins. C'est une démarche qui a commencé il y a une petite vingtaine d'années, il me semble. Et donc, l'objectif, c'est de compter, évidemment, mais surtout de compter sur le long terme pour voir l'évolution des effectifs. Et évaluer les effectifs d'oiseaux, la récurrence des oiseaux dans les jardins, etc., etc.
Figurez-vous que compter les oiseaux de son jardin n'est pas un acte si isolé que ça. Le site Oiseaux des Jardins comptabilise cette année plus de 200 000 contributeurs inscrits, pour un nombre de contributions s'élevant à 280 000 pour l'année 2026, et un nombre total de contributions depuis sa création qui atteint les 9 millions. D'autres petites questions de base s'imposent. Les jours comme aujourd'hui, par exemple, sous la tempête de neige, est-ce que c'est aussi utile de compter ou est-ce qu'il n'y a pas assez d'oiseaux qui sortent?
Oui, alors du coup, on a pu le constater aujourd'hui. Les auditeurs s'en rendent pas compte, mais du coup, on est sous la neige et on a quand même fait le comptage parce que les oiseaux restent quand même actifs, notamment le matin. Ils ont quand même besoin de se nourrir, ils ont quand même besoin de se déplacer. Et donc, quoi qu'il arrive, même si on n'en voit pas beaucoup, on en voit... Et de toute façon, c'est le comptage d'hiver. Donc en hiver, on a quand même moins d'oiseaux, en tout cas moins d'espèces d'oiseaux qu'au comptage de mai, puisqu'il y a un second comptage qui se passe au mois de mai.
Pour faire un petit bilan de notre comptage de ce matin, rien d'extraordinaire, on a croisé entre 15 et 20 espèces différentes parmi les plus communes.
Ouais, une petite vingtaine d'espèces. Par exemple, les plus communes qu'on a vues, par exemple, c'est la mésange bleue, la mésange charbonnière, le merle. Ça, c'est trois espèces qui sont très communes, très récurrentes sur tous les comptages dans la France entière. Toutes les personnes qui ont décidé de compter les oiseaux de leur jardin, plus d'un tiers des jardins, on retrouve ces trois espèces. Donc le merle noir, la mésange charbonnière, la mésange bleue. Et le rouge-gorge aussi est une espèce qui est très très présente.
Compter, c'est tout un art, mais ça peut aussi s'improviser. Il faut quand même suivre quelques règles de base pour ne pas fausser son comptage.
Voilà, effectivement, l'objectif à la fin, c'est de rentrer ces données pour qu'elles puissent être utilisées pour faire des statistiques, etc. Et alors, comment on fait sur ce comptage-là? On a une base de données qui s'appelle Faune France. Et il y a une annexe, on va dire, qui s'appelle Oiseaux des Jardins. Et sur ce site-là, on peut référencer son jardin et tous les ans venir renseigner les observations qu'on a faites. Et donc ce comptage-là, ça prend une heure par week-end, deux fois par an. Donc une fois au mois de janvier, une fois au mois de mai. Et donc c'est une heure de comptage. Et comment on s'y prend ? L'idée, c'est de rester à sa fenêtre ou en tout cas avoir une vision globale de son jardin et de déterminer quelles espèces sont présentes. Et pour compter, souvent, ce qu'on dit, c'est qu'il faut compter. Par exemple, si je vois des mésanges charbonnières, j'en vois 4 à un moment donné, je vais en noter 4. Je ne vais pas noter une mésange charbonnière à chaque fois qu'elle va apparaître à ma fenêtre, mais je le compte le maximum que j'ai vu en même temps. Voilà, c'est comme ça qu'on s'y prend.
Au fil des années, c'est aussi une méthode qui permet d'évaluer les changements et les différences de comportement de population des espèces d'oiseaux en lien avec le réchauffement global de notre planète.
C'est assez, contre-intuitif, c'est ça le terme. L'idée, c'est qu'on se rend compte, en tout cas en hiver, qu'il y a plus d'oiseaux dans les jardins. Ça ne veut pas dire qu'il y a plus d'oiseaux en général, ça veut dire qu'ils ont changé leur habitude. Notamment, je pense à deux espèces, par exemple la fauvette à tête noire, qu'on retrouve de plus en plus dans nos jardins et dans les jardins aussi en Grande-Bretagne. Et ça, c'est pas parce qu'il y en a plus, c'est pour deux raisons. La première, le réchauffement climatique qui font que les fauvettes migrent moins loin. Et la deuxième raison, c'est parce que, notamment en Grande-Bretagne, il y a de plus en plus de personnes, de particuliers, qui mettent à manger aux oiseaux l'hiver. Et les fauvettes à tête noire s'en sont rendues compte et du coup restent ici parce qu'elles ont conscience qu'elles ont de la ressource tout l'hiver, etc. Donc ça ne veut pas dire qu'il y en a plus, ça veut dire qu'elles ont changé leurs habitudes. Oui, le chardonneret élégant, dans certains endroits, dans certaines zones, on en voit de plus en plus dans nos jardins parce qu'ils ne trouvent plus rien ailleurs. Ce sont des granivores et dans toutes les grandes zones d'agriculture intensive, ils ne trouvent plus à manger et donc ils se réfugient sur les mangeoires. Donc encore une fois, ce n'est pas parce qu'il y en a plus qu'on en voit plus au jardin. C'est juste que soit il n'y a plus à manger, soit ils changent leurs habitudes de nourrissage.
Des comptages comme celui-ci, il y en a deux par an. Le prochain a lieu en mai et il est tout aussi important.
C'est en mai. Donc c'est un comptage qui, en hiver, il prend vraiment juste les oiseaux hivernants et on en fait un second pour tous les arrivages d'oiseaux migrateurs. Et donc là, ça va plutôt se concentrer sur les martinets, les hirondelles, etc., qui reviennent au jardin et qui sont eux aussi en grande baisse. Là, pour le coup, pour les espèces qui sont là au mois de mai, les populations baissent.
Midi et des poussières.
Merci Léo pour ce reportage qui vient de se finir.
Mais merci à
Héloïse.
Oh waouh, j'ai dit son prénom il y a deux secondes et j'ai eu un trou énorme à l'instant. C'est mes moments classiques. Je peux redire deux mots autour
Oui, mais du moi comptage. Je voulais juste te dire que je sais qu'en plus tu étais allé un peu au péril de ta vie à ce reportage parce que les conditions elles étaient extrêmes ce jour-là.
Avec des pneus lisses de voiture sur le Causse Softair, c'était Je suis arrivé là-bas avec une tension sanguine douteuse.
Et oui, voilà, tu peux nous donner un peu plus d'autres infos parce que, notamment, le fait que donc, ce comptage, il a été lancé, enfin, ces actions de comptage d'Oiseaux des Jardins, ça a été lancé en 2013, c'est dit dans le reportage. Mais il y a une année particulièrement où ce comptage a vraiment marqué les esprits.
Il a marqué les esprits en 2020. Et moi, tu vois, c'est un peu comme ces lip-dubs d'entreprise, ça me fait un peu la même chose. C'est les petits noms de projets et de fameuses opérations qui me font beaucoup rire. En 2020, il y a eu beaucoup de succès parce que nous étions tous en confinement, nous étions confinés. Et ils ont appelé la fameuse opération qui a beaucoup fonctionné, Confiné et aux aguets.
Confiné aux aguets, c'est pas mal. Donc voilà, on pouvait ne rien faire et juste observer les oiseaux pour les compter. Donc ça avait beaucoup, beaucoup marché cette année-là, on imagine bien. Et donc c'est une chose de compter les oiseaux, mais après, il ne faut pas garder ces chiffres pour soi. Comment ça marche pour transmettre donc, les données qu'on récolte chacun chez soi?
Ben, Héloïse en parle rapidement dans l'interview, dans l'échange qu'on a eu. Elle parle de Oiseaux des Jardins. C'est un site internet lié du coup à tout cet univers naturaliste. Vous pouvez aller directement sur oiseauxdesjardins.fr. Sur la page d'accueil, vous aurez un petit bouton un peu caché sous le cadre de connexion qui s'appelle « J'aimerais participer ». À partir de là, vous remplissez un mail, un mot de passe, vous avez votre compte qui se crée. Une fois que votre compte est créé, vous pouvez créer votre jardin, c'est-à-dire choisir un lieu défini dans lequel vous ferez vos comptages. Ça peut être simplement votre balcon, si vous n'avez pas plus qu'un balcon chez vous, ou votre fenêtre, ou aller même jusqu'à un grand square public, donc lieu public ou privé. Vous aurez à le situer ensuite avec une vue aérienne pour savoir où il est et s'il y a déjà d'autres jardins potentiellement dans le coin. Et une fois que votre jardin sera créé, vous n'aurez plus qu'à transmettre vos observations, les oiseaux que vous auriez vus, et voilà, et même des photos pour aller avec.
Super, donc ça permet aussi aux gens qui n'ont pas ni jardin ni balcon de quand même pouvoir participer en allant dans des jardins publics. Ça, c'est chouette.
Et je te redonne toutes les infos pour les mettre en ligne si jamais les gens ont besoin d'un petit tuto comment s'inscrire ou comment transmettre les données.
Ouais, on mettra les liens sur la page de Midi et des Poussières sur le site de Radio Bartas. Et ben merci beaucoup Léo. Et donc pour clore cette séquence oiseau, tu nous proposes d'écouter un petit morceau de musique.
Oui, et le morceau de musique arrivera juste après parce que pendant nos petites recherches, le reportage avec Raphaël, nous avons appris que j'étais un buffle de feu.
Voilà, buffle de feu pour le signe astrologique chinois de Léo.
Et cette musique que j'aime beaucoup et qui me tient à cœur, c'est Les oiseaux de passage
de Georges Brassens.
Merci de Brassens.
Et ben on écoute ça tout de suite sur Radio Bartas. Salut Léo.
Salut.
Ô vie heureuse des bourgeois, qu'avril bourgeonne ou que décembre gèle, ils sont fiers et contents. Ce pigeon est aimé 3 jours par sa pigeonne. Ça lui suffit, il sait que l'amour n'a qu'un temps. Ce dindon a toujours béni sa destinée. Et quand vient le moment de mourir, il faut voir cette jeune oie en pleurs. C'est là que je suis née. Je meurs près de ma mère et j'ai fait mon devoir. Elle a fait son devoir, c'est-à-dire que honque. Elle n'eut de souhait impossible, elle n'eut aucun rêve de lune, aucun désir de jonque, l'emportant sans rameur sur un fleuve inconnu. Et tous sont ainsi faits, vivre la même vie, toujours pour ces gens-là, cela n'est point hideux. Ce canard n'a qu'un bec et n'eut jamais envie, ou de n'en plus avoir, ou bien d'en avoir deux. Ils n'ont aucun besoin de baiser sur les lèvres, et loin des songes vains, loin des soucis cuisants, possèdent pour tout cœur un viscère sans fièvre, un coucou régulier et garanti disant « Oh les gens bienheureux, tout à coup dans l'espace, si haut qu'il semble aller lentement un grand vol, en forme de triangle, arrive, plane et passe. Où vont-ils, qui sont-ils, comme ils sont loin du sol? Regardez-les passer, eux, ce sont les sauvages. Ils vont tout leur désir, le vœu, par-dessus mont, et bois et mer et vent, et loin des esclavages, l'air qu'ils boivent ferait éclater vos poumons. Regardez-les avant d'atteindre sa chimère, plus d'un l'aile rompu et du sang plein les yeux. Moura, ces pauvres gens ont aussi femme et mère et savent les aimer aussi bien que vous mieux. Pour choyer cette femme et nourrir cette mère, ils pouvaient devenir volailles comme vous, mais ils sont avant tout des fils de la chimère, des assoiffés d'azur, des poètes, des fous. Regardez les vieux coqs, genoux édifiantes, rien de vous ne pourra monter aussi haut qu'eux, et le peu qui viendra, deux à vous, c'est leur fiente. Les bourgeois sont troublés de voir passer les gueux. Regardez les vieux coqs, genoux édifiantes, rien de vous ne pourra monter aussi haut qu'eux, et le peu qui viendra, deux à vous, c'est leur fiente. Les bourgeois sont troublés de voir passer les gueux.
C'était Les oiseaux de passage de Georges Brassens, qui chante une partie du poème du même nom de Jean Richepin, paru dans son recueil La chanson des gueux en 1876. Une chanson engagée, anticonformiste, satire sociale contre l'ordre établi et la bourgeoisie. Une chanson contestataire en somme, comme les aime Max, qui nous propose normalement chaque mardi sa minute de masque. Mais malheureusement aujourd'hui il n'est pas là. Alors en attendant de le retrouver, je vais quand même vous faire entendre le générique de sa chronique, car le concours est toujours ouvert. Celui ou celle qui devinera qui prononce la petite phrase « c'est étonnant hein » qui apparaît dans le générique de sa chronique, eh bien se verra offrir un verre par Max lui-même. Alors écoutez bien. La minute de masque, un morceau de musique raconté par Max en une minute, enfin un peu plus.
C'est étonnant, non ?
Et voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. On se retrouve demain pour un prochain épisode. D'ici là, restez bien à l'écoute sur le 107 de la bande FM ou sur radiobartas.net. À bientôt, salut.
Sait-on ce qui se cache derrière cette petite phrase que nous prononçons de nombreuses fois dans une journée ? Quelle heure est-il ?
Au quatrième top, il sera exactement...
midi et des poussières. Midi et des poussières.
Un rendez-vous presque quotidien sur Radio Bartas.
Des invités, des reportages, des chroniques, de la musique. Une heure d'émission pour raconter ce qu'il se passe ici et un peu plus loin.
Midi et des poussières.
En réalité, pour être tout à fait précis, actuellement, c'est le temps atomique, moins 10 secondes, plus une heure.